Isabelle Huppert, tête d'affiche à l'affiche de 3 films ce mois-ci. La suite de notre émission spéciale, on vous a laissé carte blanche, Isabelle Huppert, pour dialoguer avec une personnalité de votre choix. Et vous avez souhaité recevoir Agnès B., créatrice de mode, qui présentait hier sa collection prête à porter automne-hiver 2018-2019. Mais aussi galeriste et mécène passionnée d'art qu'elle collectionne compulsivement, photographie, peinture, sculpture, street art, plus de 5000 œuvres. Une partie de sa collection était d'ailleurs présentée l'été dernier à la collection Lambert d'Avignon et au musée de l'histoire de l'immigration. Elle sera de manière plus pérenne prochainement, puisque va ouvrir une propre fondation, la vôtre, Fondation pour l'art contemporain. Agnès B., bonjour.
Bonjour.
Isabelle Huppert, une présentation. Pourquoi Agnès B.? Son éclectisme?
Oui, absolument. Ses vêtements d'abord, qui sont... Vous savez, il y a une phrase, j'ai vu un film là... récemment de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, et il y a une très belle phrase dans ce film. À un moment donné, Daniel Day-Lewis dit qu'il fait des vêtements pour donner du courage. Je trouve que c'est une très belle définition du vêtement féminin, en tous les cas.
Moi, je suis très d'accord avec ça. Je ne savais pas qu'il disait ça.
Oui, c'est magnifique.
Mais moi, je pense que ça aide le vêtement, quand même.
Et très beau film, celui de Paul Thomas Anderson, qu'on a sauvé d'ailleurs autour de cette grande table. Phantom Thread avec Daniel Day-Lewis, le vêtement, qui est couturier dans le film, couturier maniaque par ailleurs. Le vêtement, plus qu'un artifice, est-ce que pour vous, Isabelle Huppert, c'est, vous voyez votre dressing comme une galerie, votre garde-robe comme une bibliothèque? Quelle place vous lui accordez à cette garde-robe dans votre vie? Elle vous entoure?
Une place assez importante. Le vêtement, c'est au-delà de la mode, c'est au-delà des tendances, c'est quelque chose qui vous... C'est un questionnement, c'est quelque chose qui vous définit, qui vous fait exister selon les circonstances, qui vous renvoie à vous-même. C'est important, oui, dans la vie des gens, le vêtement. Et je pense que Agnès B. l'a bien compris.
Oui, puis je crois que les femmes ont envie de ne pas être tous les jours la même, quand même. C'est amusant, on se met dans des rôles, finalement, ou des scènes, ou des circonstances, enfin il y a des vêtements pour plein, d'ailleurs quand je fais le défilé je me dis celle-là elle est à l'aéroport, elle a sa valise, elle est habillée comme ça. Quand je fais un défilé je fais des personnages un peu, c'est plutôt que des stéréotypes de femmes, c'est plutôt des gens différents et j'ai envie de montrer des personnages dans le défilé.
Et alors aujourd'hui toutes les deux de noir vêtu, vous avez choisi d'endosser quel rôle Agnès B. aujourd'hui?
Ben, j'ai mis mon t-shirt de John Giorno en l'honneur d'Isabelle, parce qu'Isabelle est quelqu'un qui n'a peur de rien.
Catch a Falling Knife.
C'est mon ami artiste et poète John Giorno que j'adore, donc j'ai mis ça en l'honneur d'Isabelle.
Merci.
Parce qu'Isabelle n'a peur de rien. Attrape le couteau qui tombe. Voilà, ça veut dire prends des risques. Isabelle est vraiment quelqu'un qui a pris des risques toujours. Et je peux parler d'Isabelle d'un moment extraordinaire que j'ai connu à New York quand elle jouait dans la pièce toute seule de Sarah Kane, les poings serrés, debout sur la scène. C'était un moment extraordinaire. J'ai eu la chance d'assister à ça. C'était trop beau. Et puis, alors, bon, Godard. Pépé, mange ta soupe, Pépé, j'adorais. Et quand vous étiez penché au-dessus de la rivière avec...
Dans Passion. Accroché à une branche.
Parce que c'était beau, tout ça. J'ai adoré, dès le début, j'ai adoré Isabelle, en fait.
Grande fan de cinéma, Agnès B. aussi, oui. Godard notamment, vous et les acteurs, on peut citer alors acteurs, actrices, Isabelle Huppert, oui. Michel Piccoli, Gérard Depardieu, il y a des noms qui vous ont entouré pour les Français.
Gérard Depardieu, c'était magnifique. Et puis il y a ce Gabriel que Patrice Chéreau avait tourné, que j'avais coproduit, et j'avais eu la chance d'aller au tournage dans cette maison. C'était très très beau, j'aimais beaucoup Patrice.
Moi aussi, c'était beaucoup. D'après une nouvelle de Joseph Conrad, et c'était un tournage d'une intensité. Oui. Moi c'est la première fois que je travaillais avec Patrice, et malheureusement ça a été la dernière, j'aurais pas eu la joie de traverser une aventure théâtrale avec lui. Mais l'intensité des rapports qu'il avait avec les acteurs, c'était une chose absolument... extraordinaire, l'engagement qu'il y mettait, on avait l'impression qu'il jouait sa vie à tout instant, c'était absolument extraordinaire. Il nous manque tous les jours.
Ah oui, vraiment, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi.
Agnès B., vous évoquiez cette collection prête à porter automne-hiver que vous avez présentée hier.
Oui.
D'ailleurs, Isabelle Huppert était au défilé, donc vous allez pouvoir l'une et l'autre nous en parler. Est-ce que pour vous, Agnès B., le vêtement est une fiction à part entière?
Oui. Puis je pense que quand on dit je mets n'importe quoi, je ne crois pas, sauf les gens dans la grande pauvreté, qui peuvent pas ne pas mettre n'importe quoi. Mais les gens disent mais n'importe quoi, mais j'y crois pas. Je crois qu'il y a toujours un minimum où on essaie d'être soi-même et on essaie de parler de soi à travers le vêtement. Puis c'est ce qui est plus proche du corps, c'est le vêtement, il y a une intimité avec le vêtement. Et puis des gens me parlent de robes que j'ai fait il y a 20 ans ou 30 ans, en évoquant un moment où elles ont vécu, ou des hommes aussi d'ailleurs, aussi. Ça m'amuse. Alors, ah, c'était mon premier costume, c'était Agnès B. Il y en a un qui m'a dit ça hier, c'était rigolo.
Et quel film vous avez vu hier, Isabelle Huppert, du coup, pour ce défilé qui était où, au théâtre de...
À Chaillot, c'est rare de voir Chaillot la journée. Enfin, moi j'y vais beaucoup le soir pour aller au théâtre, mais c'est une vue magnifique sur la Tour Eiffel, sur Paris, c'est très très beau dans cette galerie. Et j'ai vu, comme disait Agnès à l'instant, plein de situations différentes. Une femme qui va au travail, une femme qui va dans une fête le soir. Il y a des robes magnifiques, des robes longues, à la fois longues mais très simples aussi, tout à fait portables dans des circonstances pratiquement quotidiennes. Et c'est vrai qu'il y a toute une multitude de personnages comme ça qui se sont présentés à nous. C'était très agréable.
Puis il y a cette immense fresque dans cette salle là au Palais de Chaillot. À droite, qui sont des femmes, c'est du rose, du bleu, du vert, et j'ai essayé de... Dans le défilé, qu'il y a aussi des couleurs comme ça, qui rappelaient un peu la fresque.
Très belle couleur.
Et après, il y a ces grandes colonnes noires, donc ça ressortait. Puis la Tour Eiffel derrière. Donc
on avait
beaucoup d'étrangers.
Puis
on avait beaucoup d'étrangers, puis il y avait la mariée avec le marié, tout ça.
Ah, ça arrive parfois.
Puis des femmes qui font du sport aussi.
Oui.
Alors ça,
oui, le street chic. J'ai fait du street chic.
Isabelle Huppert, Agnès B. Cette année, le César des meilleurs costumes, une récompense créée en 85, a été attribuée à Au revoir là-haut, à Mimi, l'MPK. Agnès B. En 66, vous avez créé à la demande de William Klein le fameux t-shirt à rayures noir et blanc de Qui êtes-vous, Polly Magou. Vous avez aussi habillé Uma Thurman et John Travolta sur Pulp Fiction, Réservoir Dog. On sait aussi que David Lynch ne s'habille qu'en Agnès B.
Ah,
vous avez prêté certains de vos vêtements pour Mulholland Drive. Il y a des allers-retours comme ça dans votre vie permanents entre la mode et le cinéma. Mmh. Est-ce que vous avez une fois conçu des habits, des costumes uniquement pour le cinéma ?
Non,
ou est-ce qu'on est venu piocher dans votre vestiaire ?
Oui, j'ai vu beaucoup de mes vêtements dans les films, même dans Godard, il y a un t-shirt rayé, il y a un cardigan en pression dans un autre film. Non, j'ai pas fait ça, j'avais fait pour le théâtre, pour les lettres à un jeune poète, avec Nils Arestrup. J'avais assisté aux répétitions, et c'était merveilleux d'être au Bouffe du Nord, toute seule avec Nils Arestrup, qui lisait les lettres à un jeune poète. C'est un souvenir de théâtre magnifique, ça. Et je l'avais habillée, en effet, avec une robe de chambre rouge foncée, pour aller avec le décor, qui est sans décor, mais les Bouffes du Nord, c'est un endroit magnifique. J'adore cet endroit.
Et c'est encore autre chose de créer des costumes pour des films, pour le cinéma ou pour le théâtre, que de créer, designer.
Et pour ça, il y a des costumières. Moi, j'ai des amis costumières.
C'est un autre métier ?
C'est un autre métier, je pense. J'ai une amie, donc Anne, oui, qui est costumière, Françoise Clavel. Oui. Et puis moi, j'avais invité cette jeune costumière à faire d'ailleurs le. J'invite chaque défilé, j'invite une jeune créatrice nouvelle pour montrer son travail en même temps que le mien. Il y a 6 passages. Et à chaque fois, il y a une nouvelle jeune créatrice ou jeune créateur qui est invitée dans mes défilés. Voilà. C'est l'idée de partage encore.
Attrape le couteau qui tombe, c'est écrit donc sur votre t-shirt,
oui.
Agnès B. Catch the falling knife.
Oui, knife.
Oui. Knife, pardon.
Oui.
Est-ce que vous prenez des risques vous-même ? Comment vous les prenez ?
Parce qu'on vit pas. Je pense qu'on ne vit pas pleinement si on ne prend pas des risques. En fait,
et quels risques vous prenez, par exemple, aujourd'hui, dans votre profession ? Quels sont les risques que vous prenez ?
Ben, d'être moi-même. Parce qu'après, il y a la vente des vêtements aux boutiques. Après les boutiques, il faut que ça reste moi-même jusqu'au bout. D'ailleurs, ce qui est sur tout ce qui passe à mon défilé, ça sera après dans les boutiques au Japon, à Hong Kong, à Tokyo, donc à Taïwan, New York, Londres, Amsterdam. On n'a pas tellement de magasins, en fait, mais on en a un peu partout dans des villes que j'aime.
Et on vous pousserait à ne pas être vous-même ?
Pardon ?
Vous seriez... vous auriez
non,
des pressions
non,
pour
faut,
dire...
Bon,
il faut faire ci, il faut faire
rester
ça,
soi-même,
répondre à une demande.
Il faut quand même rester soi-même. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées. Parce qu'on a toujours tendance à aimer ce qui a été fait avant. Mais quand il y a de nouvelles choses qui dépassent ce qui a été fait avant, tant mieux. On est obligé quand même. Même si les vêtements que je fais, j'essaie qu'ils soient pérennes et qu'on puisse les porter très longtemps, qu'ils ne soient pas trop mode. C'est la manière de les porter qui compte
Ce que veut dire Antoine, Agnès B, c'est aussi que la mode est devenue une industrie aujourd'hui. C'est un monde qui est soumis à beaucoup de pression. On en reparlera d'ailleurs demain dans la grande table. Est-ce que vous avez le sentiment que de rester indépendante, c'est l'adjectif que vous avez employé, Isabelle Huppert, pour qualifier et parler d'Agnès B, ça a été aussi un parcours du combattant, rester une créatrice indépendante toute votre vie?
On est dans une maison comme ça, on s'appartient. On a les gens qui travaillent là depuis longtemps, on a des nouveaux qui s'intègrent. C'est la maison continue à sa manière à être une entreprise familiale en fait. C'est pas une chaîne de 3000 magasins qu'on a, c'est 300, je pense, à peu près.
Antoine Mercier, une question sur le dîner qui a eu lieu hier.
Je sais pas, vous y étiez, oui, à ce dîner.
Oui, j'étais au dîner hier.
Enfin, c'était un buffet. Il y avait un buffet, c'est ça?
C'était plutôt... Oui, mais il y avait des tables.
Ah bon, il y avait des tables.
Placées.
Donc, est-ce que vous avez été à côté du président à un moment donné?
Oui, bien sûr.
Il faut peut-être raconter, c'était un dîner à l'Élysée, donc à l'invitation du couple présidentiel qui a invité des créateurs de mode.
Oui, c'est ça.
Et pas seulement, des journalistes.
Et donc, on n'a aucune occasion de se voir, finalement. Il y en a qui se connaissent peut-être entre eux, mais moi, je ne les connais presque pas. C'est drôle. Je pensais qu'il y avait l'assistante de Madame Macron, et je croyais qu'en fait c'était Isabelle Marant.
Qui est une autre créatrice.
Et Isabelle Marant, je l'ai vue une fois il y a très longtemps et je ne l'aurais pas reconnue.
Défendre la marque France.
C'est dire à quel point je ne connais pas bien les autres, à part Castel Bajac que j'adore. La marque France, moi, c'était une idée d'il y a longtemps, c'était du temps du président Hollande. J'avais participé à la conception et tout s'était tombé. Bon, ça avait fait. C'était resté dans les sables, disons. Et puis maintenant, ils ont l'air de vouloir la remettre en avant. Mais moi, je suis pour, parce que je pense qu'il y a un savoir-faire formidable en France. Il y a des ateliers, il faut pousser, évidemment, tout ce savoir-faire. Et il faut le garder. Et c'est le moment ou jamais.
Parce qu'après, ça sera trop tard. Finalement.
Oui,
c'était le discours du président. Oui.
C'est ça que je disais aussi il y a longtemps. Oui.
Donc, il veut la reprendre.
Mais on continue, nous. On continue à fabriquer en France. 40% à peu près, ce qui est énorme. Et c'est plus cher en France, évidemment, qu'ailleurs. Mais sinon, on travaille des pays émergents, essentiellement.
Isabelle Huppert, dans la dentelière de Claude Goretti en 76, déjà, la mode, la couture était présente au cinéma. On construit un rôle aussi par le vêtement. On imagine que oui, que le vêtement a aussi une importance dans votre manière d'intégrer, d'habiter un rôle. Alors c'est assez... c'est pas un hasard si aujourd'hui Agnès B est à vos côtés, parce que dans la caméra de Claire, dont on parlait dans la première partie de l'émission, vous êtes en Agnès B. Mais là, chose un peu particulière, une fois encore, c'est pas Agnès B qui a produit ses costumes ou ses habits pour vous, c'est vous qui êtes allé, à la demande du réalisateur, piocher dans votre propre garde-robe, et on y retrouve l'éternel gilet à pression d'Agnès B, en jaune, cette fois-ci pour accentuer ce côté solaire qu'on évoquait ensemble. La place du vêtement, néanmoins, dans vos rôles, est-ce qu'il reste, il reste le vêtement important, et est-ce que vous gardez vos costumes de film après coup?
Le vêtement, il est essentiel. Oui, c'est le premier indice qu'on donne au spectateur, le costume. C'est ça quand même qui définit d'emblée un personnage. Après, évidemment, il faut l'habiller intérieurement, mais l'enveloppe extérieure est essentielle. Et pour en revenir au film de Hong Sang-soo, oui, c'est lui aussi qui a choisi ses vêtements. Il en a aimé les couleurs. Alors, il a pioché comme ça le
oui,
petit.
C'était beau ce que vous disiez tout à l'heure là-dessus. Il faisait une palette.
Oui, comme un peintre.
Choisissait les couleurs comme un peintre.
Il a assemblé ça comme c'est ça beau, très rapidement. Et surtout, il a jamais voulu que j'en change, et le jean noir, enfin, c'est vrai que c'était tous des vêtements conçus et fabriqués par Agnès au départ, mais il a aimé ma silhouette de cette manière-là et il a voulu qu'elle reste comme ça, inchangée jusqu'à la fin du film.
Tous artistes.
Parfaitement convenu.
Dans la caméra de Claire, vous êtes un peu photographe, un peu poète, un peu vous-même aussi.
You want to go now for that cooking?
Yes, why not? Let's go. Wow, this is great.
It's nice.
Yes. What do you do for a living? Oh, yes, you told me you're a teacher.
I'm a poet too, and I take photos too, with this.
Oh, it's great.
Yes, it's great. You can write poems anytime you want. It's not that difficult.
I sometimes make songs. They're very childish songs, but they make me feel good.
So? You're a composer. You're an artist too.
Do you want to hear my song?
Sure, I'd love to.
Okay, so. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7. 7, 8, 9, 10. All the numbers are important.
Dans ce film, Isabelle Huppert, c'est vous, la photographe amateur, et c'est votre appareil, vos clichés qui révèlent à la jeune assistante de cinéma coréenne que vous croisez dans les rues de Cannes où vous êtes en marge du festival, la part d'ombre de son licenciement. Quelques jours auparavant, de cette chambre noire, il y a toujours une lumière qui jaillit. La jeune femme demande à un moment à votre personnage, à Claire, pourquoi tu prends des photos? Et Claire répond, parce que la seule façon de changer les choses est de les regarder une fois encore très lentement, Agnès B. Ça en dit long sur le sens et le rôle de la photo aussi aujourd'hui. C'est quelques mots du réalisateur Aung San Suu qui sont mis dans la bouche d'Isabelle Huppert dans ce film. Regardez une photo, il y a des photos qui vous ont fait changer votre regard sur le
monde. J'ai toujours fait de la photo, j'ai toujours fait des photos moi, je ne me prends pas pour une photographe, mais j'ai toujours fait des photos. Et sur mes vêtements, il y a très souvent une photo que j'ai prise exprès pour mettre sur la robe ou sur la jupe en numérique, et on fait ça depuis 10 ans à peu près. Et je m'amuse beaucoup parce que je suis dans la nature ou je sais pas où, dans une ville, et je fais des photos pour mettre sur des parkas ou des robes du soir. Et ça tient une grande part dans mon travail, la photographie en fait.
Vous faites des photos et
j'ai une grande collection de photos. Ouais. J'ai appris à connaître la photo à partir des années 80 à peu près, où j'ai eu la galerie en 84 du jour. Et là j'ai montré très vite de la photographie et j'ai appris à connaître, à comprendre la photographie et à l'aimer. Vraiment, il y a des gens.
Il y a qui dans votre collection?
Dans la... Oh, il y en a plein.
On peut quand même commencer par.
Évidemment, il y a Brassai, il y a Eggleston, il y a plein d'amis. Je peux pas dire des noms. Il y en a tellement qui sont aussi vivants ou jeunes que j'ai découverts, comme Ryan McGinley, qui est devenu une star maintenant, 10 ans après. Il y a plein de choses comme ça. Mais moi, j'ai les yeux grands ouverts et j'adore voir des choses. J'en perds pas une miette autant que je peux.
La Isabelle photo, c'est les habits du réel.
Oui.
Ouais.
Oui.
Non, j'ai envie d'ajouter que la photo, ça a amené Agnès B au cinéma, car Agnès a fait un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle...
Je m'appelle...
Une petite fille. Et ce que j'ai retenu de ce film, c'est la liberté. C'est un film qui passe d'un style à l'autre, d'un genre à l'autre, et je trouve que c'est un film qui invente...
C'est un film d'amateur, j'ai fait ça en amateur.
Oui, mais dans amateur, déjà, il y a aimé. Amateur, oui. C'est pas, ça ne s'oppose pas forcément à professionnel, en tous les cas pour le meilleur, la plupart du temps. Et dans le meilleur des cas.
Ça me fait plaisir.
Non, mais c'est
mais
vrai.
D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on en reparle à l'occasion de toute cette histoire autour des femmes, tout ce qui s'est passé depuis 6 mois autour des femmes, de ce qu'on dit des femmes. Et je pense que c'est relié à l'enfance. Et mon film est l'histoire d'une petite fille qui mal chez elle et qui se sauve, et c'est un road movie sur une route dans les Landes dans un camion. Voilà.
Pourquoi c'est lié à l'enfance?
Parce que on éduque mal les petites filles, on éduque mal les garçons. Elle est abusée par, enfin il se passe, ça se passe pas bien du tout chez elle. C'est pour ça qu'elle se sauve, et il y a beaucoup d'enfants, garçons, filles qui ont des histoires petits avec des grandes personnes, et il faut en parler en même temps, de la même manière qu'on parle des femmes abusés, harcelés, etc. Je soutiens absolument tous ces combats, mais je trouve qu'il faut relier à l'enfance ça. J'ai eu besoin de faire ce film. C'est pas ma propre histoire, c'est une fiction, mais j'ai eu besoin de parler de ça. Voilà. Donc merci Isabelle d'avoir parlé du film. C'est gentil. Mais j'aime beaucoup ce film, il est sorti en DVD et on va essayer de faire une projection un de ces jours.
Après que je vous ai pris en photo, vous n'êtes plus la même personne, vous êtes différent. Ça, c'est ce que dit aussi Claire, votre personnage Isabelle Huppert, dans ce film, la caméra de Claire. Et vous avez été tout au long de votre vie, de votre parcours, Isabelle Huppert, à la fois muse, et ici dans ce film, c'est vous la photographe, muse pour Richard Avedon, Antoine d'Agata, Cartier-Bresson, et cette série qu'on doit citer quand même absolument magnifique, de Vous au naturel, de la photographe new-yorkaise Renée Horn, qui avait été réalisée en 2005, exposée à la collection Lambert, à la FIAC.
J'aime beaucoup Renée Horn, fantastique.
Est-ce que tous ces regards vous ont changé?
Oui, c'est une phrase assez mystérieuse qui donne à réfléchir, là, qui est dite dans le film de Aung San Suu. Est-ce qu'ils m'ont changé? Non, je crois pas, non. Non, c'est des expériences, comme tout ce qu'on fait. Rien ne me change vraiment, j'ai l'impression. Faire des films, ça me change pas.
Heureusement.
Pas du tout. C'est juste l'expérience de le faire. Moi, c'est vraiment ici et maintenant. Avec évidemment un peu de pensée avant de le faire, et même après j'en pense aussi quelque chose après l'avoir fait, mais c'est vraiment le fait de le faire. Et Peut-être ce qui différencierait d'ailleurs la photo du cinéma, c'est que l'expérience de faire une photo, c'est le résultat qui prime plus avant tout. Alors que le cinéma, je ne suis pas sûre que le résultat m'importe tant que ça, au fond. Je pourrais très bien ne jamais voir les films que j'ai faits. Et d'ailleurs, je crois que je vais commencer assez rapidement à ne plus les voir. Alors que la photo, on a envie de voir le résultat.
Mais il y a aussi peut-être quand même une relation différente entre le photographe la femme sujette de la photo ou la personne photographiée et l'actrice et le réalisateur metteur en scène. C'est la photographe Bettina Reims qui vous a photographié, je crois aussi, Isabelle Huppert.
Oui, il y a longtemps.
Et qui est passée nous voir à l'occasion de son exposition Détenue, où elle photographie ou a photographié des femmes détenues dans les prisons françaises. Et elle disait que c'est un vrai rapport de force, de pouvoir qui s'établit le temps d'une séance entre le modèle et le photographe, surtout avec des comédiennes. C'est pas si évident de vous pousser à vous dévoiler. Est-ce que l'œil du photographe, finalement, est peut-être plus inquisiteur que celui du réalisateur derrière sa caméra? Il vous est arrivé de percevoir comme ça?
Oui, mais le photographe se dévoile autant qu'il nous dévoile. Comme c'est vrai pour tout le monde. Oui, on peut toujours parler d'un système comme ça de pouvoir que l'un exercerait sur l'autre. Mais oui, on prend une photo, mais le metteur en scène, il est... On est tous autant démunis au fond devant ce qu'on fait. Le metteur en scène l'est tout autant que l'acteur et peut-être le photographe aussi tout autant que le modèle. On n'arrive pas comme ça armé, tout puissant. C'est pas comme ça que ça se passe. Je crois pas.
Agnès B.
Je sais pas. Moi, j'ai pas l'expérience d'Isabelle pour avoir posé pour des photographes. Ça m'arrive évidemment. Mais moi, je sens très bien quand la lumière est moche ou quand je sais très bien comment ça va être vu là.
Moi
bon.
Aussi.
Hein, c'est vrai, hein, quelquefois, bon.
Tout de suite.
Mais oui.
Mais vous sentez aussi la responsabilité que vous pouvez avoir dans le regard que vous posez sur certaines personnes.
Je ne sais pas poser, en fait, j'aime pas ça.
Puisque vous avez ouvert.
C'est mieux de l'autre côté, en fait.
La boîte de Pandore, Agnès B., la question des femmes et de la condition des femmes aujourd'hui, quel pouvoir avez-vous, l'une et l'autre, pour faire évoluer des causes, celle-ci ou une autre, qui vous tiennent à cœur? Je vous propose d'écouter Antoinette Fouque, féministe.
Ah, Antoinette Fouque, je la connaissais, oui, bien sûr.
Figure historique MLF, du MLF, oui. En 76.
Le MLF, c'est pas nous qui nous sommes donné cette détermination. Les gens ont dit tout d'un coup, le mouvement de libération des femmes, et on s'est aperçu que c'était nous. Nous qui nous réunissions au Beaux-Arts sans savoir qui on était, ce qu'on faisait. Bon, on parlait. On parlait, puis on programmait des explosions terribles, des grenades partout, enfin. On voulait tout casser quand même, heureusement. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des groupes de femmes absolument partout. Il y en a qui s'appellent femmes travailleuses en lutte, qui se définissent peut-être comme trotskistes, comme ceci, comme cela. Il y a beaucoup d'ismes encore, mais il y en a beaucoup qui sont hors de tous ces ismes et qui refuseraient vraiment une étiquette. Et c'est vraiment l'opinion publique, la facilité et des médias entre autres, de amalgamer tout ça sous le nom de féminisme globalement. De même que souvent, on veut qu'une femme qui parle et qui dit qu'elle est en mouvement ou qu'elle est en lutte soit une représentante du MLF. C'est une aberration. Il ne peut pas y avoir deux représentations là où il n'y a justement pas de parti, pas d'organisation. Justement, c'est contre la représentation que nous luttons. C'est contre la délégation de pouvoir. Bon, il y a une femme qui a une aptitude à parler. C'est celle qu'on sollicitera de parler à un moment. Et dans le moment, il y a une femme qui a une aptitude à écrire. Elle écrira. Il y a une femme qui a une aptitude à faire des livres. Il y en a une qui a une aptitude à s'occuper des enfants dans une crèche. Toutes ces choses ne doivent pas, ne sont pas hiérarchisées pour nous. Malheureusement, dès qu'on retombe effectivement dans une structure très 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 hiérarchisée et de pouvoir très en place, on ira effectivement considérer comme un pouvoir de parler. C'est vrai que c'est un pouvoir et c'est à celle-là qu'on fera appel pour par exemple tenir un dialogue à la radio.
Voilà, Isabelle Huppert, dédicace, vous qui êtes sommée de prendre position sur l'affaire Weinstein, sur la libération de la parole depuis quelques semaines. On attendait votre position. Et est-ce qu'on n'est pas toutes forcément aptes à dire « time's up » ? Ça ne veut pas dire qu'on ne le pense pas, ça veut dire qu'on peut estimer que sa parole n'a pas à intervenir sur tous les sujets ou qu'on ne doit pas forcément faire de soi un porte-parole d'une cause. Agnès B., Isabelle Huppert, est-ce que vous avez une aptitude comme elle le dit Antoinette Fouque, pour certains sujets.
Oui, j'ai vu ça.
Non, mais je crois qu'on est tous un peu porte-parole de cette cause qui... Comment ne pas être totalement solidaire de ce qui vient de se passer. Après, on prend la parole quand on en a envie aussi. Après, vous parlez du pouvoir qu'on peut avoir sur ça. En tous les cas, oui, on peut qu'espérer que ça va être suivi d'acquis et que les voix comme ça s'élèvent pas pour ne rien dire et en tous les cas en n'étant pas entendu. C'est tellement incroyable ce qui vient de se passer. Et c'est pas seulement pour là où ça s'est passé, pour le milieu du cinéma. C'est vraiment une chose... Il y aura un avant et un après.
Est-ce que vous en sentez déjà peut-être les effets ou...
Un peu tôt pour le dire. Un peu tôt pour le dire. Je le souhaite, mais pas les effets... Voilà, les effets pour tout le monde. C'est
dans
tellement évident.
Dans les attitudes, dans les...
Et c'est tellement évident que la misogynie est tellement là partout, partout, dans le monde entier. Dans les pays où les femmes sont les plus démunies, c'est toujours les femmes qui trinquent en premier. Voilà. C'est...
Moi, je trouve important que les jeunes commencent à comprendre ça, que ça commence dès l'école, en fait, dès qu'on a 15 ans, 17 ans, que les garçons commencent à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de sexisme à l'école. Ça commence à l'école, déjà, je pense. Il faut que les générations suivantes ne soient pas comme ça. Parce que là...
C'est... Mais ne soient pas comme quoi? Quel est le problème?
Je ne sais pas, il y a eu beaucoup... Non, il y a eu beaucoup... Non, je ne sais pas, il y a des histoires qu'on raconte. Enfin, quand on lit dans Le Monde, Weinstein, ce qui s'est passé à l'hôtel du Cap, à Antibes, c'est vrai que ce n'est pas admissible. Voilà. C'était une actrice, comment elle s'appelle, la fille de l'italienne de Dario...
Asia Argento.
Oui, Asia. Bon, ça m'a suffi. Je me dis, bon, je vais pas tout lire. C'est un type qui se comporte horriblement mal. Bon, qu'on en parle et qu'on le dénonce, bien.
Et alors, comment faire pour
que ce
soit...
Il ne faut pas que ça devienne non plus tout le temps, quoi.
Non, mais comment faire pour que ce soit une cause qui sorte aussi de ce cercle ou du monde du cinéma?
Et je crois qu'elle profite, comme vous dites, bénéficier à toutes les femmes. On parle de l'égalité de salaire, on parle de... Voilà, de choses qui dépassent le strict problème.
Antoinette, vous parlez du lien avec la hiérarchie, les structures hiérarchiques, il y a aussi peut-être au-delà de effectivement de ce que ça peut régler comme question douloureuse pour les femmes, c'est aussi peut-être un changement de société, c'est-à-dire que c'est souvent dans les relations de pouvoir que les problèmes se posent.
Mais bien sûr, partout, absolument partout, on le sait.
Est-ce que vous y voyez un rôle politique à ce mouvement?
C'est ça que je veux dire. S'il y a une prise de conscience à travers les pires histoires d'hommes qui se disent, tiens, après tout, je fais peut-être un peu trop de manières avec une telle. Et voilà, ça suffit ça. Et puis, si c'est partout un peu comme ça, bah, tant mieux, ça fera du bien. Agnès Mais le charme, ça compte aussi. Il faut aussi qu'il y ait du charme, évidemment. Il faut aussi qu'il y ait des moments
de la séduction,
de convivialité, de séduction. On peut pas... Voilà, sûrement pas.
Oui. Isabelle Huppert, Agnès B., deux femmes, deux cinémas, deux passions cinéma. Vous avez de votre côté, en plus de vos rôles, de votre carrière de comédienne, Isabelle Huppert, racheté deux salles de cinéma, pas toute seule, mais quand même, où vous projetez notamment beaucoup de films du patrimoine du cinéma mondial, avec l'envie de faire vivre aussi ce cinéma. De votre côté, Agnès B., vous appliquez, vous travaillez à restaurer, notamment avec la collection Potemkin, de nombreux films qu'on ne trouve plus, qui ne sont plus disponibles, avec votre société de production Love Streams.
Non, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus ?
Non, on est obligé de fermer, mais ce qui n'empêche pas de tout de même... Bon, avoir des amis dans le cinéma que je peux aider. J'ai un film, il y a un film en ce moment qui se prépare.
Vous y avez l'envie de coproduire en tout cas des films?
Et on vient me voir parce qu'il y a toujours besoin d'un coup de pouce en France en ce moment.
Plus que jamais.
Oui, c'est pas seulement des coups de pouce d'ailleurs.
Y compris pour la diffusion du cinéma, y compris pour la production du cinéma.
C'est le pays d'Europe où on va le plus au cinéma. Alors ça, je suis très contente.
Pourquoi ça le graderait?
Oui, il y a un genre de film qui se fait quand même avec de plus en plus de grandes difficultés.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire les films que j'aime, par exemple. Voilà. Oui, bien sûr.
Non, il y a les films grand public. Le public va beaucoup au cinéma, mais c'est pas que tout.
Par exemple, avant, il y avait davantage d'aides, vous voulez dire, ou de possibilités?
Non, les aides, il y en a toujours, mais on en a de plus en plus besoin. Et pourtant, comme dit Agnès, la France reste un pays unique en Europe. Il n'y a pas beaucoup de pays en Europe où on produit autant de films, où la France est autant partie prenante. Mais néanmoins, il y a quand même un genre de film qui est de plus en plus menacé, de plus en plus difficile à faire.
Alors Love Stream, c'était aussi un clin d'œil à Cassavetes, qui vous avait emprunté, Agnès B., le titre de l'un de ses films avec l'autorisation,
de Gina Rowlands. La permission.
On écoute sa voix.
You like jazz?
Yeah, I like world music. Good. Makes you feel like living. Silence is death.
You feel like making a musical?
Yeah.
Yeah? With dance and orchestras and all?
Yeah, one musical, only one.
Only one?
Yeah.
You wrote the story already?
No, I didn't write it. Dostoevsky wrote it. Crime and Punishment. I would like to make that a musical.
Extrait de cinéaste de notre temps avec John Cassavetes sur les routes de Los Angeles. C'était André Labarthe qui lui donnait la réplique, témoigner, mission que s'était aussi assigné ce critique de cinéma, réalisateur, producteur décédé hier à l'âge de 86 ans. Il avait rejoint la rédaction des Cahiers du cinéma en 56, en 64. Il avait commencé cette fameuse collection cinéaste de notre temps qu'il coproduit avec Jeannine Bazin et dont il réalisera lui-même plusieurs épisodes. En 65, à Hollywood, il rencontre Cassavetes, le futur chef de file du jeune cinéma indépendant américain. En 68, il le retrouve à Paris à l'occasion de la sortie du film Faces. De ces rencontres improvisées va naître ce film mythique dont on vient d'entendre un extrait. Je ne sais pas si c'est un homme, André Labarthe, qui a croisé votre route à l'une ou à l'autre, Isabelle Huppert, Agnès B. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait, comme vous, à sa manière, ce besoin de témoigner, mais aussi de jouer un rôle de passeur dans le cinéma.
Des catalyseurs, il faut toujours des catalyseurs. Même un mot catalyseur sur un t-shirt, parce que j'aime l'idée que quelqu'un soit un catalyseur.
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il a, à un moment donné, il a interviewé des acteurs, des actrices d'une manière très particulière. Je ne me souviens plus exactement des détails, mais j'avais le souvenir comme ça d'une interview qui n'était pas du tout comme les autres, où il s'attachait justement à un détail. C'était très particulier la manière. Et on se sentait être vraiment. Soi-même, voilà, ce qui n'est pas si fréquent. Il donnait accès à une partie de soi qui n'avait pas forcément l'occasion de s'exprimer aussi complètement de cette manière-là. C'était Andreas Labarthe.
Et cette collection-là, c'était sa manière à lui de déclarer sa flamme aussi au cinéma. Vous allez continuer l'une et l'autre à votre manière, en jouant dans des films, en continuant à votre longue camaraderie.
Faire un autre film aussi.
Agnès B. aussi, avec tous les cinéastes et comédiens.
Ouais. On le projettera dans nos cinémas.
Il n'est pas fait. Hein.
C'est peut-être ça qu'il faut commencer. Antoine Mercier, dernière question.
Bah oui, c'est quoi ces salles de cinéma alors?
Alors ces salles de cinéma, c'est l'école 21 et le Christine 21, qui sont ex-Action Christine et Action École.
Avec une programmation.
Programmée par mon fils Lorenzo Chama.
Et un voilà. Woody Club qui fait la part belle au cinéma de Woody Allen.
Absolument.
Merci beaucoup à toutes les deux. Un grand merci à vous, Isabelle Huppert, pour cette grande table spéciale. Merci Agnès B. de nous avoir rejoints.
Merci beaucoup.
Pour cette émission. Et merci Antoine Mercier d'être resté avec nous chaque jour. C'est quand une plaisir. Grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez nous écrire, mais aussi vous abonner au podcast de l'émission, à la programmation préparation. Henri Leblanc, Claire Maillot, Clémence Marie, avec l'aide précieuse de Chloé Leblanc et de Maxime Morin et Émile Boutelier qui vient de nous rejoindre à la réalisation aujourd'hui, Liscombe avec Emmanuel Morse d'Incan. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi et vous dis rendez-vous demain.